L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous. On continue ici à la porte de Versailles en direct, Radio Imo, Radio Territoria, pour le salon de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France. On est ravis d'accueillir Romain Colas. Bonjour Romain.
Bonjour.
Vous êtes maire de Boussy-Saint-Antoine dans le 91, élu référent de la commission Finances et Fiscalité de l'AMIF. Alors, c'est très sérieux, on va parler finances. Finances et fonds européens, c'est vrai qu'on a le sentiment d'une mobilisation, en tout cas de l'Europe, après ce quoi qu'il en coûte, après cette crise sanitaire. Ça a finalement ressoudé l'Europe. Le souci qu'il va pas falloir maintenant continuer à accélérer. Est-ce qu'il y a un sentiment d'Europe qui est plus fort, vous avez l'impression, après cette crise sanitaire et cette crise aussi ukrainienne?
Alors, pour s'éloigner des strictes questions financières, oui, je pense qu'un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui n'avaient pas conscience, au-delà des aspects commerciaux, de ce qui peut les décevoir aussi dans le fonctionnement de l'Union européenne, nos concitoyens ont perçu quel était in fine le sens du projet européen. Et cette tragédie que subit l'Ukraine, je crois, nous rappelle à quel point il faut avoir conscience du caractère tragique de l'histoire, que celle-ci, lorsqu'elle bégaye, c'est souvent dans la douleur. Et ce qui a forgé l'Europe, ce qui a donné lieu à la création de la communauté économique européenne, puis ensuite l'Union européenne, c'est d'abord la volonté d'hommes et de femmes, encore ensanglantés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de créer un espace de coopération et donc de paix. Et ce que nous rappelle la tragédie ukrainienne, c'est à quel point l'Europe est précieuse, parce qu'elle nous offre, à l'échelle de l'histoire européenne, elle nous offre une précieuse parenthèse, qui est celle de la paix sur le territoire de l'Europe occidentale. Et donc, au-delà des débats légitimes sur son fonctionnement, sur ses priorités, sur ses orientations, je crois que la crise ukrainienne nous rappelle à quel point l'Europe est précieuse, simplement pour notre existence même et la paix qui règne sur le continent.
Mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était un peu un espèce de monstre froid qui coupait les cheveux en quatre sur des réglementations pas toujours très claires. Et là, on s'aperçoit que ce soit pour les masques, pour ça, pour la santé, que ce soit pour la défense, on a ce désir d'Europe qui revient et cette nécessité même. Hein.
Et surtout la prise de conscience que dans un monde très interdépendant, un monde où émerge de nouveaux leaderships, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, il est essentiel que l'Europe soit un élément de souveraineté. Défendre ce que nous avons en commun, nous, Français, avec les Allemands, avec les Belges, avec les Grecs, que sais-je encore, ça passe forcément par l'Europe. L'heure n'est pas aux nains économiques, démographiques et politiques. Et donc, je crois que nous avons en commun avec les peuples qui composent l'Europe, et que pour défendre ce commun dans un monde compliqué et multipolaire, il faut une Europe qui s'arme politiquement, économiquement, et sur le projet qu'elle porte à l'échelle du monde. Et aussi bien la crise sanitaire que la crise ukrainienne ont montré que l'Europe avait une voix originale à porter, qu'elle était capable d'être soudée et efficace dès lors qu'elle était mobilisée.
Et voilà, le plus dur, c'est de se mettre ensemble autour de la table et puis de réfléchir. Alors, ça se fait à vitesse grand V et accélérée en ce moment. Mais évidemment, on est parti très loin dans la géopolitique. On va refocuser un petit peu sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, le salon des maires d'Île-de-France. Et comment, finalement, cette finance, ces fonds européens, ils peuvent aider au jour le jour nos communes, nos territoires. Comment c'est décidé? Est-ce qu'on sait, puisque le nouveau gouvernement vient à peine d'émerger, même toujours en création, en matière de finances, quelles vont être finalement le cap qui va être donné pour ces collectivités, pour ce développement, parce que là aussi les défis sont immenses?
Alors, aujourd'hui, sur les projets du gouvernement, je n'ai pas d'informations particulières. En revanche, je suis persuadé, comme la quasi-totalité de mes collègues maires en Île-de-France et très au-delà, qu'on a un sujet sur le financement des collectivités locales en général, et singulièrement du bloc communal, les communes, les intercommunalités, pour les prochaines années. On a, dans le quinquennat précédent, connu d'une certaine façon une recentralisation des recettes des collectivités, avec la suppression de la taxe d'habitation, avec la suppression de la part départementale de taxe foncière qui a été transférée aux communes pour compenser toute une partie de la suppression de la taxe d'habitation. Et tout le monde est bien conscient que là, on est dans un moment où on est au milieu du gué s'agissant du financement des collectivités. On ne va pas pouvoir fonctionner longtemps avec une minorité, et dans certaines villes, du fait de leur histoire, du fait de leur structure, c'est une infime minorité, une minorité de contribuables locaux qui finance le service public local. Ça ne va pas marcher, cette histoire.
Bien sûr.
C'est pas viable. C'est pas viable pour ceux qui sont assujettis aux taxes foncières et qui payent. C'est pas viable pour les communes qui ne vont pas pouvoir massacrer les propriétaires, que ceux-ci soient d'ailleurs des personnes physiques ou bien des entrepreneurs, des entreprises, des personnes morales. Voilà, pendant longtemps, alors même qu'il y a des défis formidables. On nous appelle quotidiennement à participer à l'indispensable effort pour la transition écologique. On nous appelle à contribuer à l'aménagement durable du territoire. On nous appelle à répondre, c'est vrai, particulièrement en Île-de-France, à l'effort nécessaire pour produire du logement et donc accueillir des populations nouvelles qui ont besoin de services nouveaux, et tout ça représente un coût, sans qu'on ait aujourd'hui de recettes à aligner.
Donc on a un empilement des coûts, je vous entends, voilà. Et en face, pas toujours
et
les
encore aujourd'hui, de façon légitime d'ailleurs, et même presque trop timorée. Donc je suis un peu schizophrène en vous disant cela, mais avec les 3,5% d'augmentation de la valeur du point d'indice qui sont annoncés, parce qu'évidemment il faut lutter contre le décrochage du pouvoir d'achat des agents publics. Et 3,5%, alors même qu'on attend une inflation à 5 ou 7 sur 2022, on n'est même pas dans le rattrapage. Et dans le même temps, moi je gère des deniers publics dans les différents mandats que j'exerce, et je même si on avait anticipé parce qu'on savait que c'était dans l'air du temps, je ne sais pas encore comment on va réussir à boucler la fin d'année entre l'augmentation des coûts, parce qu'on subit l'inflation comme les ménages, auxquels nous sommes confrontés, et puis une absence de dynamique des recettes. Donc ce qu'on attend les uns les autres, et il y a un consensus chez les élus locaux là-dessus, du gouvernement dès lors que celui sera installé, après la déclaration de politique générale, un éventuel vote de confiance, c'est qu'il scelle un pacte qui donne de la visibilité aux collectivités locales. Il n'y a rien de pire que d'être dans un cadre qui évolue sans cesse. Et il faut recréer de la confiance entre l'État et les collectivités, parce que ces dernières années, on a quand même été, et c'est valable très objectivement du quinquennat qui vient de s'achever, comme du quinquennat précédent avec les baisses de dotation aux collectivités, nous n'avons fait que subir des décisions qui à un moment, d'une certaine façon, sortaient presque de nulle part. Puisque c'est arrivé, alors même qu'on était au milieu de nos mandats, qu'on avait nos projets, etc. Là, on a besoin de donner aux collectivités de la visibilité et, je crois, d'asseoir leurs finances sur un système qui est viable, et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Donc, visibilité, long terme.
Autonomie.
Parce que
nous, on est prêts à accepter des responsabilités.
J'allais dire, dans les épreuves qu'on a vécues, on peut vous rendre hommage. Les maires se sont mobilisés, ça s'est fait dans les territoires, ça ne devait pas du descendant. Vous avez fait un boulot extraordinaire. Comment vous en sortez, justement? Est-ce que vous êtes au niveau de l'état des finances? Ça a coûté également. Ou est-ce que vous êtes... En tout cas, on a vu qu'au niveau autonomie, pour reprendre votre point, les communes, voilà, les petites ou grandes mairies étaient tout à fait aptes à se débrouiller et à prendre cette autonomie.
Oui, mais d'ailleurs, on le fait. Vous le mentionnez sur la crise sanitaire. Effectivement, à un moment, il a fallu que les uns et les autres nous débrouillions, ce qui montre aussi la pertinence de l'échelon local, et ce qui a sans doute donné une leçon... au président de la République, désormais réélu pour un second mandat, parce qu'il nous avait regardé d'un peu haut, quoi, au début de son quinquennat.
Là, vous l'avez pas bien digéré.
C'est pas un problème de digérer, c'est un problème. Moi, je fais pas de la politique en voulant flatter mon orgueil. C'est pas mon sujet. Sinon, je pourrais passer mes journées à être vexé. Le problème, c'est l'efficacité de l'action publique. On a un président de la République, une majorité parlementaire aussi, qui nous ont regardé un peu en chien de faïence pendant toute la première partie du quinquennat, qui nous ont superbement ignorés, qui ont imposé un certain nombre de mesures sans prendre en compte la capacité qui était celle des élus locaux et singulièrement des maires à être des acteurs très opérationnels, notamment en cas de crise, ça l'a démontré, sur le terrain. Mais il n'y a pas qu'en cas de crise qu'on a besoin des maires.
Est-ce que ça va changer avec la nouvelle majorité plurielle? Enfin, la majorité, c'est quand même...
La majorité qui n'existe pas à l'heure où nous parlons. Je pense que déjà la diversité politique française est mieux représentée dans cette Assemblée qu'elle ne l'était par le passé. Et que peut-être on a, en tout cas je le souhaite ardemment, Moi, je ne suis pas un militant du cumul des mandats. J'ai été député maire, je connais les limites de l'exercice et j'étais très content d'une certaine façon que ça s'arrête parce qu'à un moment, quand on veut tout faire bien, où on ne vit plus, où on finit par tout faire mal. Mais je pense qu'on a d'abord des parlementaires, ceux qui ont été reconduits de la précédente majorité, qui ont pris un peu de bouteille, qui ont été instruits par le passé récent, et puis sans doute des profils politiques plus armés, plus outillés, qui ont une connaissance plus fine, précisément de la façon dont la mécanique fonctionne concrètement, de ce que peut être le rôle d'un parlement, mais aussi le rôle de collectivité locale.
C'est un apprentissage,
et qu'à un moment,
il faut
de toute façon, tout s'apprend dans la vie.
Et là, il y a une palanquée de nouveau qui vient d'arriver.
Tout s'apprend dans la vie. Et peut-être que le quinquennat précédent a montré qu'il faut de l'humilité et accepter l'idée qu'on apprend toute sa vie et qu'on a à apprendre des autres, même si on n'a pas forcément suivi le même parcours qu'eux.
Tout à fait. Alors, du coup, on revient à notre sujet de finances et fonds européens. Vous êtes, je le rappelle, référent de cette commission finances et fiscalité. Tiens, parlez-nous un peu de cette commission. À quoi ça sert, j'allais dire, comment vous travaillez au jour le jour pour peut-être faire remonter, prendre déjà les avis des uns et des autres, des maires d'Île-de-France, c'est une assemblée assez puissante, et comment vous faites remonter ça au sommet de l'État?
Alors en fait, la commission finance-fiscalité de la MIF, elle a une double vocation. La première, c'est de faire d'une certaine façon ce que nous avons fait aujourd'hui au sujet des fonds européens, c'est de sensibiliser les maires, les adjoints aux finances des communes d'Île-de-France, à un certain nombre de thématiques, de sujets, pour les armer, leur délivrer de l'information et puis répondre à leurs questions. Typiquement sur les fonds européens, vous avez des collectivités qui sont habituées à les manier, qui connaissent les mécanismes, et puis des collectivités, c'est le cas de ma commune, c'est le cas de l'Interco à laquelle j'appartiens, qui ne se sont jamais véritablement frottées à ces sujets, qui sont, il est vrai, d'une complexité,
ardue,
certaine. Ouais. Mais il y a de l'argent à aller chercher. Il y a, pour les seuls fonds qui sont gérés, délégués par l'Europe à la région Île-de-France, 413 millions d'euros sur la période 2021-2027 qui vont pouvoir être distribués par la région sur la base d'appels à projets dont les premiers devraient arriver d'ici la fin de l'année 2022. 413 millions d'euros à destination des communes, des intercommunalités de l'Île-de-France au titre de politique sectorielle européenne, le FSE, le FEDER. C'est des sommes qui sont conséquentes. Encore faut-il que les élus aient conscience que ces fonds existent, aient conscience qu'ils peuvent porter des projets qui sont éligibles à ces fonds et qu'ils sachent où aller les chercher. Donc ça, c'est sur ce sujet, par exemple, des fonds européens, la commission finance fiscalité de la MIF est dans son rôle où elle délivre de l'information comme elle a pu le faire encore très récemment. Et c'est d'ailleurs une réunion de la commission qui a eu une audience assez forte sur le passage à la norme comptable M57, nouvelle norme comptable qui va s'imposer aux communes, aux intercommunalités à partir du 1er janvier 2024. Et puis l'autre vocation de cette commission, c'est aussi de recueillir l'avis des praticiens que sont les ordonnateurs, les maires des communes d'Île-de-France, à la fois sur les politiques fiscales et les politiques budgétaires, et donc être le relais des préoccupations des maires d'Île-de-France auprès des pouvoirs publics, singulièrement du gouvernement et des parlementaires. Et d'ailleurs, nous le ferons cette année comme nous le faisons, nous avons pris l'habitude de le faire chaque année. Nous organiserons une réunion de la commission des finances avec de la MIF, avec les parlementaires des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée, au moment où commenceront les débats sur le projet de loi de finances, pour dire ce que nous pensons et ce que sont nos attentes à celles et ceux qui votent la loi de finances, à savoir les députés et les sénateurs.
On a entendu en creux, Romain Collat, que vous n'aviez pas été assez entendu peut-être lors de la mandature précédente. Est-ce que ça va changer ce que vous avez de cette fois l'oreille attentive des fonds, ça, la technicité, vous l'avez. Est-ce que maintenant les propositions vont être plus entendues, à votre avis?
Mais là-dessus, je crois que ce que je vois, donc je ne sais pas si nous serons plus entendus dans le mandat qui s'ouvre. Encore une fois, on attend d'avoir la confirmation de ce que sont nos interlocuteurs. Il ne vous a pas échappé qu'une ministre qui devait être une interlocutrice privilégiée des collectivités territoriales à Méthine-Montchalin est appelée à quitter, je ne sais pas à quelle échéance, mais le gouvernement. Donc pour l'instant, on ne connaît pas les acteurs. En vrai, on ne connaît pas les projets du gouvernement. On ne connaît pas la feuille de route du président de la République qui a été plus ou moins floue sur le projet qui était le sien, en dehors de la réforme des retraites, dont je ne sais pas d'ailleurs si elle sera même portée au regard de la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Bref, pour l'instant, nous sommes dans l'expectative, mais je ne désespère pas que, puisqu'il y a au moins un des acteurs qui n'a pas changé, en l'occurrence le président de la République, qu'il ait pu tirer les enseignements du passé sur la nécessité qui était la sienne, dans un souci d'efficacité, pas de bataille partisane, mais dans un souci d'efficacité d'écouter ce que les maires ont à dire.
Eh bien, et puis si vous êtes entendu, en tout cas, merci pour ce brillant exposé. Finances et fonds repas, un thème important, on l'a compris, les communes, les territoires doivent s'en emparer. Il y a de l'argent à aller chercher, surtout en ces périodes de disette. Merci Romain Collat. Je rappelle que vous êtes maire de Boussy-Saint-Antoine, élu référent de la commission Finances et Fiscalité à la MIF. À très bientôt sur notre antenne.
Au plaisir.
La MIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.